Faire un rendre le camp des travailleurs, c'est l'intitulé des listes que présentent les ouvrières dans toutes les régions, notamment ici en Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Bien sûr, je ne peux commencer cette réunion sans évoquer les massacres perpétrés à Paris il y a quelques semaines. Ceux qui ont frappé ont tué froidement le plus de femmes et d'hommes possible, indistinctement, au hasard, pour terroriser. Et alors que nous sommes toujours bouleversés, le gouvernement, les principaux politiciens, eux, ont profité de cette émotion pour chercher à nous réduire au silence et nous persuader de nous ranger derrière leur politique en appelant à l'unité nationale et en instaurant l'état d'urgence. Dans cette situation politique, il est plus que jamais vital de faire entendre le camp des travailleurs. Mais je laisserai à Julien Rostin le soin de développer cela. Pendant ce temps, la course au profit de la bourgeoisie ne s'arrête pas. L'offensive que mènent en ce moment le patronat et le gouvernement contre le monde du travail est sans précédent depuis des décennies. Et le cas du département des Ardennes est à cet égard éloquent. Ainsi, la fonderie PSA Peugeot Citroën aux Ayvelles, près de Charleville, la plus grosse entreprise industrielle des Ardennes, employait en 2004 plus de 3600 travailleurs. En 10 ans, plus de la moitié des emplois a disparu. Les 1500 salariés restants ont vu leurs conditions de travail s'aggraver, les cadences s'intensifier. La direction se permet même de les appeler au dernier moment pour leur imposer des heures supplémentaires, les convoquer le week-end, méprisant allègrement la vie personnelle et familiale des travailleurs de cette usine. Avec la gestion en flux tendu du stock, les ouvriers sont obligés de changer plusieurs fois de poste quand les pièces viennent à manquer, et ce au détriment des mesures de sécurité les plus élémentaires. Dans ces conditions, comment s'étonner des accidents de travail et des maladies professionnelles que cela engendre? Comment s'étonner alors si un ancien salarié de PSA, estropié par un chariot, est dû entamer une grève de la faim pour recevoir les indemnités qui lui étaient dues? Comment s'étonner qu'un ouvrier de PSA soit tombé dans un bassin d'aluminium à 700 degrés et que les sous-traitants qu'il employait aient eu recours à toutes les procédures judiciaires pour ne pas lui verser les indemnités qui lui revenaient? Et bien, le cas de PSA est exemplaire, celui d'une entreprise multinationale riche à milliards qui écrase ses salariés pour dégager davantage de profits et qui se moque des conséquences pour ses travailleurs. Oui, il ne se passe pas une semaine sans que soient annoncés de nouveaux coups portés contre les travailleurs. Fermeture d'entreprise, dégradation des conditions de travail, licenciement, attaques portées aux salariés et à ceux qui les défendent, comme les militants syndicaux ou les médecins et les inspecteurs du travail quand ceux-ci essaient de protéger les salariés. Sans parler des référendums bidons, où on demande aux travailleurs de choisir entre la corde et le poison, entre la baisse des salaires et l'augmentation du temps de travail. Dans le secteur du commerce, c'est la même rapacité patronale que l'on retrouve. Accorda de Villesmeuse, pour augmenter son chiffre d'affaires, la direction veut imposer le travail le dimanche matin, en menaçant les salariés, qui sont majoritairement contre, de suppression d'emplois à court terme. Les employés ont bien raison de s'opposer à ce chantage de l'union. Oui, le patronat se croit aujourd'hui tout permis, et il peut compter sur le soutien du gouvernement. Car dans les domaines que l'État contrôle, c'est la même politique qui est menée. Il en est ainsi de la SNCF, qui, avec la complicité de la région, ne cesse de réduire ses effectifs tout en dégradant les services rendus aux usagers. En 11 ans, le nombre de cheminots a été divisé par près de 2 en Champagne-Ardenne, passant de 11 000 à 6 000. C'est le résultat d'une politique menée à l'échelle de l'ensemble du pays. Une politique qui consiste à réduire le plus possible ce qu'ils appellent le coût du travail, les dépenses de fonctionnement, quitte à condamner des lignes jugées pas assez rentables pour que ça rapporte encore davantage. Et qu'importe si les usagers s'entassent dans des wagons. Sans parler du défaut d'entretien, des voies qui imposent de nombreuses limitations de vitesse et qui provoquent souvent des retards. Il n'est pas rare, sur la ligne Charleville-Givet, laissée dans un tel état de délabrement, que les trains soient parfois doublés par les cyclistes qui roulent sur la voie verte. Dans d'autres secteurs publics, toujours avec cette même logique de rentabilité, on supprime des emplois utiles à la population, des centres de soins, comme la maternité de Vouziers, des bureaux de poste. D'ailleurs, 28 bureaux de poste sur 48 seront fermés d'ici 2016, alors que le nombre d'agents a déjà été réduit d'un tiers en 7 ans. Plus généralement, le gouvernement multiplie les lois, les projets de loi, les textes, les décrets, les arrêtés, qui, tous, visent à faire les poches des travailleurs pour financer les cadeaux patronats et dynamiter la législation existante pour démolir les quelques protections dont bénéficient encore les travailleurs contre l'exploitation. Pour financer les cadeaux plus riches, l'imagination gouvernementale est sans limite. Crédit impôt recherche, pacte de solidarité, crédit d'impôt compétitivité emploi, aide financière directe, subventions fiscales, dégrèvements sociaux. Bref, ce sont des dizaines de milliards d'euros qui ont été versés directement dans les caisses des grandes entreprises. Alors que les responsables du gouvernement nous rabâchent en continu que les caisses de l'État sont vides, les actionnaires des grandes entreprises, eux, se goinfrent littéralement d'argent public. La succession des fermetures d'entreprises dans les Ardennes depuis plus de 10 ans illustre parfaitement l'inefficacité des subventions dans la sauvegarde de l'emploi. Elle a surtout mis à jour la complicité des pouvoirs publics, qui parfois vont jusqu'à aider le patronat à licencier. C'était le cas de Nexans, le géant mondial de fabrication de câbles électriques, qui, après avoir bénéficié de 58 millions d'euros au titre de fonds stratégiques d'investissement, a fermé son usine de Chauny dans l'Aisne, où travaillaient 220 salariés, et supprimé 53 emplois à Fumay en 2011, sous le regard complaisant des responsables de ce fonds. Et cet été, pour soutenir durablement la compétitivité, je le cite, et réaliser 100 millions d'euros d'économies d'ici 2017, cette multinationale prévoit 478 suppressions d'emplois en Europe, dont 224 en France. Et Nexans n'est pas la seule entreprise à avoir bénéficié des subventions publiques pour ensuite finir par jeter les travailleurs à la rue. Pour soutenir la reprise par le groupe CENI de l'usine d'Electrolux à Revin, les pouvoirs publics ont maintenu l'exonération de cotisations et de charges sociales, alors même que la direction supprimait 230 emplois. On se souvient aussi de Thomas Génaud en 2006 ou de Lenoir Mernier en 2009, qui ont mis la clé sous la porte après avoir empoché les cadeaux fiscaux qu'offrent notamment les zones franches. Lenoir et Mernier, entreprise qui produisait des boulons à Bonny-sur-Meuse, a été liquidée en 2009. Le patron a certes été condamné pour banqueroute, détournement et abus des biens sociaux. Mais les 130 salariés, eux, ont perdu leurs moyens d'existence. Et ils ont dû multiplier les actions pendant un an pour obtenir des paiements d'indemnité qui ne soient pas dérisoires. Alors on voit combien il est nécessaire que les travailleurs aient un droit de regard sur les comptabilités des entreprises et sur les décisions de leur conseil d'administration pour parer au mauvais coup que leur assène le patronat. Ces derniers jours, les entreprises bénéficiant aussi depuis des années d'aide publique ont annoncé des suppressions d'emplois. On peut citer KME à Fromelennes, où un quart des effectifs seraient supprimés. Et avec la fermeture de la fonderie Collignon, ce sont 108 travailleurs qui perdent à leur tour leur emploi, sans savoir s'ils toucheront leur salaire à la fin du mois. Et Macron, comme Gattaz, affirme que le CDI serait trop contraignant pour les patrons et les empêcherait d'embaucher. De qui se moque-t-on? Alors face au licenciement, nous affirmons qu'il faut les interdire et partager le travail entre tous. Ces cadeaux au patronat accordés par le gouvernement sont octroyés sous prétexte de faire baisser le chômage. Mais le chômage continue à manger la société comme un cancer. 42 000 travailleurs de plus se sont retrouvés sans emploi le mois dernier. Et toutes catégories confondues, le nombre de chômeurs dépasse les 5,5 millions. Les cadeaux faits au patronat ne se traduisent jamais par des créations d'emplois, mais par des créations de profits supplémentaires pour les actionnaires et les banquiers. Mais le gouvernement va encore plus loin. Non content d'arroser à fond perdu les entreprises, il multiplie les mesures pour affaiblir le monde du travail. Après la loi Macron et ses 308 articles, dont presque chacun est une attaque contre le monde du travail, voici maintenant ce que le MEDEF attend avec le plus d'impatience, le dynamitage du Code du travail. Parce qu'il faudrait avaler que s'il y a près de 6 millions de chômeurs en France, si la misère augmente, ce n'est pas parce que la rapacité sans limite de la bourgeoisie pousse le patronat à pressionner chaque jour un peu plus les travailleurs qui restent au travail. Non, c'est à cause du Code du travail. Mais cela fait des années que le patronat contourne déjà le Code du travail. Dans cette société, il ne suffit pas que les droits des travailleurs soient reconnus pour qu'ils s'appliquent, il faut encore se battre pour imposer au patronat de les respecter. Alors oui, il faut interdire les licenciements pour ôter au patronat le pouvoir de ruiner des villes et des régions entières. Alors nous aurons affaire à un patronat et à un gouvernement qui nous font la guerre, et pour qui tous les moyens sont bons. Même quand le patronat est contraint de faire temporairement telle ou telle concession, en fait, il ne renonce jamais. Et tant que la bourgeoisie sera au pouvoir, elle restera toujours à l'affût dans l'espoir de récupérer ce qu'elle considère être son dû. Après des années où, profitant du rapport de force créé par la crise, le patronat a supprimé dans les faits ce qui le gênait dans la législation du travail ou des conventions collectives, il veut maintenant que le gouvernement le supprime officiellement, qu'il jette à la poubelle toutes les règles et tous les droits des travailleurs afin de les précariser au maximum. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les travailleurs que l'on entend protester. En plus du patronat qui ne cesse de pleurer à bouche pleine, les chauffeurs de taxi, les éleveurs, les ambulanciers, les policiers, les avocats et les médecins, et même les notaires et les huissiers, ont manifesté leur mécontentement. Face à l'offensive du patronat et du gouvernement, les travailleurs salariés ont infiniment plus de raisons de se battre pour leurs intérêts. Car c'est ce monde du travail qui crée toutes les richesses, qui fait marcher la société. Et il est révélateur que face à des travailleurs salariés qui se battent, la violence des réactions de la bourgeoisie soit bien plus grande que lorsqu'il s'agit des catégories petites bourgeoises. Et la récente mobilisation des travailleurs d'Air France l'a démontré. Nous, on se sentait de leur côté. On avait envie de crier avec eux qu'il y en a marre de toujours payer pour les mêmes, marre de leur plan de licenciement, marre de nous rabâcher qu'il faudra accepter les sacrifices, qu'on est trop payé, qu'on ne travaille pas assez longtemps, pas assez vite, qu'on a trop de RTT, qu'on est trop malade. Du Parti Socialiste à la droite jusqu'au Front National, tous ont condamné les travailleurs et ont pris la défense et la direction d'Air France. Le gouvernement a même envoyé la police interpeller à 6h du matin à leur domicile les salariés d'Air France, les traitant comme des gangsters, pour faire un exemple et vous dire « Si vous vous révoltez, voilà ce que nous ferons, nous, gouvernement de gauche. » Quant au Front National, Marion Maréchal Le Pen a traité les travailleurs de voyous et a reproché au gouvernement de ne pas avoir fait intervenir les CRS pour protéger les DRH. Et bien quand les travailleurs se battent contre un patron qui les attaque, le FN s'affiche naturellement dans son camp, celui du patron. Le FN essaie de se faire passer pour un parti qui défend les ouvriers. Mais ce qu'il veut, c'est leur vote, pour arriver, comme les autres, à la mangeoire. Le parti dirigé par la grande bourgeoise de Saint-Cloud et sa famille a montré son vrai visage. Un parti qui, comme le PS et les Républicains, est dans le camp du grand patronat. Et cela, les travailleurs qui s'égarent à voter pour le FN doivent le retenir. Le jour où ils se révolteront contre leur patron, ils trouveront le FN contre eux. Alors le MEDEF a son programme, ses revendications. Eh bien le monde du travail doit en faire autant. Il doit avoir un programme, son plan de lutte pour protéger ses conditions de vie et s'imposer. Au patronat qui licencie à tour de bras, les travailleurs doivent opposer l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous. Que l'on soit en CDI intérimaire ou en CDD. Il faudrait imposer le partage du travail, mais sans réduire les salaires. Face à l'augmentation des prix, des taxes et des impôts, nous devons exiger les augmentations générales des salaires. Chaque travailleur, chômeur ou retraité, sait pertinemment que le prix de tout ce qu'il achète quotidiennement pour vivre augmente régulièrement. Et les impôts et les taxes seront explosés également. Pour payer les cadeaux au patronat, le gouvernement nous fait les poches en augmentant les impôts qui pèsent sur les classes populaires, la taxe d'habitation, la taxe foncière ou encore la TVA. Alors oui, les travailleurs devront se battre pour imposer les augmentations de salaire. En outre, pour que ces hausses de salaire ne soient pas immédiatement grignotées par l'inflation ou les augmentations d'impôts, il faudra imposer que les salaires, les allocations et les pensions soient automatiquement indexés sur la hausse des prix et des impôts. Parce que l'argent existe, il coule à flot, et quand il ne sert pas à maintenir le train de vie de quelques milliardaires, il nourrit la spéculation financière. Et pour préserver le pouvoir d'achat des classes populaires et imposer l'interdiction des licenciements, il faudra imposer la publication de la comptabilité réelle des grandes entreprises, la vraie, pas la version bidonnée que l'on sert aux syndicats ou aux médias. Il faudra donc en finir avec le secret des affaires, le secret commercial, le secret bancaire et le secret industriel. Et ce programme, l'interdiction des licenciements, l'indexation des salaires sur les prix et les impôts, le contrôle des comptes, il ne sera jamais le fruit d'une loi prise par le gouvernement de la bourgeoisie. Il ne verra le jour que s'il est imposé par en bas, par la force, par la mobilisation de la classe ouvrière. Et la situation peut changer très vite. La classe ouvrière peut encaisser des coups sans réagir. Mais alors on a la capacité non seulement de riposter, mais d'attaquer. À un moment ou à un autre, le gouvernement mettra en place la loi de trop, la mesure de trop. Le patronat fera le plan du licenciement de trop, et on assistera alors à des grèves massives, à des explosions de colère salutaire. Et la question pour les travailleurs n'est pas de savoir si ces explosions de colère vont avoir lieu. Parce qu'elles vont avoir lieu. La préoccupation, ce sera de faire en sorte que ces mobilisations soient victorieuses. Le problème, ce ne sera pas de se laisser emmener sur la voie de garage, de ne pas se faire vendre une fois de plus par des dirigeants syndicaux qui signeraient des accords dans notre dos comme en 68 et qui mettraient tout leur poids sur la balance pour nous faire retourner au travail comme en 1936. Quand les travailleurs auront retrouvé leur force et leur combativité, il faudra qu'ils se méfient des charlatans, des faux amis. Même ces politiciens qui se réclament de la gauche, sont capables d'adopter un langage radical de circonstance. Mais ils ne sont là que pour les emmener dans des impasses. Il faudra que les travailleurs en lutte se méfient tout autant de politiciens de droite, bien sûr, et d'extrême droite, qui sont pires encore. Le PS, les Républicains et le FN se disputent la place pour mieux servir la bourgeoisie. Mais ils sont profondément d'accord pour défendre cet ordre social, basé sur la propriété privée et l'exploitation. Car le FN est un parti bourgeois, de la pire espèce, avec une démagogie encore plus réactionnaire que les autres. Et s'il est férocement anti-immigré, c'est justement parce qu'il est foncièrement anti-ouvrier. Voter pour les uns ou pour les autres, c'est accepter d'être crugé, trahi, sans rien dire, c'est les encourager à continuer. Pour éviter les voies de garage, il est nécessaire qu'au sein de la classe ouvrière, il y ait des femmes et des hommes qui se préparent à affronter et à vivre des événements sociaux, en ayant conscience que les travailleurs auront beaucoup de faux amis et beaucoup de vrais ennemis. Il faudrait qu'il existe un parti dont le seul objectif soit la défense des intérêts matériels et politiques des travailleurs. Et ce parti doit aussi se faire entendre sa voix dans ces élections, ne serait-ce que pour donner aux travailleurs la possibilité de voter pour les leurs, de voter pour autre chose que pour des menteurs ou des traîtres à la classe ouvrière, dont la seule ambition est d'arriver au pouvoir, dans les régions comme au gouvernement, pour servir la soupe au grand patronat et protéger les profits de la bourgeoisie. La voix que nous voulons porter dans cette élection est celle des travailleurs, conscients de leurs intérêts politiques. Le bulletin de vote n'a pas le pouvoir de changer la vie des travailleurs, mais il permet au moins d'affirmer clairement son appartenance à un camp, au camp des travailleurs. Alors, camarades, il faut que nous soyons le plus nombreux possible à exprimer notre confiance et notre volonté de voir la classe ouvrière demain redescendre dans la rue et mettre un coup d'arrêt à l'offensive du patronat. Il faut que nous soyons le plus nombreux possible à voter et à faire voter pour notre liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs.